Libartémen, quand vous avez demandé, Valéchoué, partez, ou Berachtem Gamouti, et vous me bénirez pour moi aussi. Alors ce Berachtem Gamouti est très difficile. On va essayer d'y réfléchir. Deux minutes que je vais. Où est-ce que tu as celui-là aussi? À côté de moi. Vous allez prendre le commentaire de Rashi, et d'ailleurs Rashi. Non, non, celui-là. Qu'est-ce qu'il y a? T'en veux, c'est-à-dire. Alors, regarde les commentaires de Rashi sur le verset 32. Et ici, Rashi donne l'opinion qu'il vit en général de tous les commentateurs que j'ai vus. Bon, je ne l'ai pas vu tous par définition, mais... Et chaque année, je me repose la même question. Il me reste un résidu de choses à expliquer, malgré ce qu'ont dit les différents commentateurs. It pas les lois alai, priez pour moi, chez l'Oamou, que je ne meure pas, chez Ani Bechor, puisque je suis premier-né. C'est-à-dire que c'est au moment où le pharaon a vu que les premiers-nés étaient en train de mourir. Alors il intervient, il dit, bon, partez et priez pour moi, que moi au moins je ne meurs pas. Et d'une manière plus ou moins analogue, l'ensemble des commentateurs disent à peu près la même chose. Bon, pour ce commentaire-là, il y a le fait qu'effectivement, le véhicule de la tefila, de la prière, c'est les brachot. C'est-à-dire on reconnaît Dieu comme la source des bénédictions. Et donc, ce qu'on demande à Dieu dans la prière, c'est des bénédictions. Et on peut s'adresser à lui pour lui demander des bénédictions, parce qu'on sait qu'il est la source des bénédictions. Un jour, si on étudie le texte de la prière de Shmon Esrei, qu'on appelle Shmon Esrei Brachot, pourquoi? La question est pourquoi c'est à travers des bénédictions qu'on prie. La prière de demande, c'est une demande de bénédiction. Et alors, les prophètes nous ont révélé que Dieu... Et celui qui donne telle ou telle ou telle bénédiction, nous le savons. Alors disons à Dieu, toi qui es celui qui donne telle bénédiction, je manque de cette bénédiction, donne-moi cette bénédiction. La bénédiction fondamentale qui est demandée, toutes les autres sont les dimensions intérieures. C'est la connaissance. La première chose demandée dans Shmoné Esrei, il y a 12 demandes qui sont 13, qui correspondent aux 12 tribus d'Israël qui sont 13. C'est la demande de la connaissance. Ata honem la adam da'at. Nous savons que tu donnes da'at, la connaissance à l'homme. Honenu meitecha. Alors, donne-nous. Je donne très rapidement l'ordre des trois premières brachot. Et s'il y a connaissance, alors la faute, c'est la faute. Et alors, par conséquent, la deuxième demande, c'est la demande que nous soyons capables de repentir. Parce que la connaissance entraîne que la faute, c'est la faute. Donc, il faut le repentir pour rédimer la faute. Et puis, après le repentir, on demande le pardon. C'est l'achlan. Vous voyez, il y a une cohérence dans le déroulement de ce qui est demandé. C'est quatre groupes de trois demandes, on utilisera petit sage. Et alors? Donc, ça va dans le sens de ce commentaire. Le pharaon a dit, bénissez-moi, moi aussi. En l'upchat, ou berartem gamoti. Et voilà ce que dit Rashi. Priez pour moi. Ça me reste difficile. Parce que même cette explication que je viens de vous donner, ça ne devrait pas être formulé comme ça. Je voudrais revenir sur un des points de ce que j'ai dit. Qu'on s'adresse à la source des bénédictions en disant Baruch Ata. On traduit. Loué sois-tu, la plupart du temps dans vos traductions habituelles, même faites par les rabbins. J'ouvrirai une parenthèse pour ceux qui n'ont pas étudié encore, c'est probablement pour rattacher à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est très difficile d'être juif en français. Et alors, il y a écrit en hébreu, Baruch Ata Hashem. Et quand on traduit, loué sois-tu, il y a trois fautes. Baruch, c'est pas loué, c'est bénir. Et Ata, c'est pas sois-tu, c'est tu es. Tout est faux dans cette traduction. Qu'est-ce qui a empêché les traducteurs de traduire comme c'est écrit en hébreu et les amener à dire loué soit-tu. Ou comme par exemple, Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il. Il n'y a pas soit-il. Il n'y a pas Akadosh Baruch Hu, rien. Il y a Akadosh Baruch Hu. Mais à quel point c'est faux. Et Dieu sait que beaucoup de Juifs ont prié pieusement en disant le Saint béni soit-il. Ou en disant loué soit-tu. Vous vous rappelez de la. Je me rappelle quand j'étais enfant, je priais dans le livre de prière de Créange. Ça me dit quelque chose. On l'utilise encore, ce livre. Alors, c'était le livre de Maman Mitzvah, en plus. Et alors, quand j'ai commencé à étudier ces choses-là, je me suis rendu compte qu'il y avait des. C'est encore une fois, c'est pas que les traducteurs ne savaient pas lire ce qu'il y avait en hébreu, mais ils ne savaient pas suffisamment le français pour pouvoir s'exprimer en français. Je ne sais pas si c'est clair. C'est énorme ce que je vous dis là. Et vous savez pourquoi moi je sais le français, c'est parce que je suis algérien, aucun rapport. En tout cas, pour revenir au problème, traduire Baruchata dans le sens du souhait que tu sois béni, qui peut bénir Dieu? Alors on s'est dit, on va traduire loué. Mais le handicap, c'est que ça ne veut pas dire sois-tu. On prend acte que Dieu est béni par essence. C'est-à-dire justement que personne ne peut le venir, mais qu'il faut le reconnaître comme source des bénédictions. Voyez à quel point c'est simple. Baruch Ata Hashem, c'est toi qui es le béni par essence. Donc c'est toi qui peux bénir. C'est tout le contraire. Et est-ce que c'est clair? C'est un participe passé passif, mais d'essence, pas d'adjectif. Et de la même manière pour Akadosh Baruch Hu. Le Kadosh qui est lui-même le Baruch. C'est très important à comprendre ça. Kadosh, ça veut dire loin de moi. La perfection de la sainteté absolue. Loin, loin. Baruch, celui qui donne la bénédiction, qui est près de moi. Les termes philosophiques, c'est transcendance et immanence. C'est le transcendant qui est l'immanent. Et dans cet ordre-là, celui qui a créé le monde, qui est providence. Akadosh, Baruch. Le Kadosh, c'est lui qui est le Baruch. Rien à voir avec ce qu'on nous fait traduire en disant le Saint béni soit-il. Vous avez compris un peu la gravité de ces choses-là. Alors c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, il faut se désintoxiquer de cette bondieuserie à la française, mais pas oublier la culture française. Et la culture française s'occupe pas du judaïsme, elle a ses propres objectifs, si c'est clair. Bon, alors je crois que, mais vraiment, ça je vous demande instamment, vous savez que j'ai l'habitude de ne citer que des sources qui existent. Ça vous savez, il m'arrive de temps en temps de vous dire, ça j'ai pas de source. Alors, faites attention, je n'ai pas de source. Hein. Ne dites pas que j'ai cité le Midrash ou la Gemara ou le Zohar. Là, c'est une hypothèse de lecture. Et si jamais quelqu'un d'entre vous, ceux qui ont l'habitude d'étudier, trouve la source de ce que je viens de dire, vous m'envoyez un télégramme. Ou Berachten Gamoti, ça va beaucoup plus loin. Quand vous reconnaîtrez Dieu comme source des bénédictions, vous m'ajouterez avec lui. Vous me bénirez moi aussi. C'est-à-dire, il se met comme choutaf de Kadosh Baruch Hu. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, quand vous bénirez votre Dieu, bénissez-moi avec. Et je m'étonne pourquoi j'ai jamais trouvé cette explication, parce qu'il me semble que c'est le pshat direct. J'ai l'impression que les commentateurs étaient gênés d'expliquer ça comme ça, parce qu'ils vivaient dans des ambiances de civilisation où précisément les croyants croyaient en un médiateur. Oui, ce qui s'est passé. Par exemple, vous avez déjà dans la Gemara, c'est-à-dire au début de l'apparition du christianisme, un enseignement qui ne s'explique que de cette manière. Interdit dans la liturgie juive de répéter un certain nombre de mots. Vous connaissez cette Gemara, hein? Celui qui dit Shema, Shema. Maudim, Maudim. Qui dit Shema Israël deux fois de suite. Après, il y a un problème dans la sortie de la Torah dans le rite Ashkenaz. Où le Chazal dit Shema Israël deux fois. Ça, je n'ai pas encore eu le temps de demander à un Chazal Ashkenaz de m'expliquer ça. D'après la Gemara, c'est interdit. Un de mes maîtres, c'est le Rav Epstein, qui est un des fondateurs de Boucher de Simon Meyer. Vous avez connu le Rav Epstein, les Strasbourgeois. Il était enseignant de Talmud à Strasbourg. Eh bien, expliquer ça comme ça. C'est à cause des premiers chazanim qui étaient christianisants. C'est-à-dire, Shema Israël au nom du Père, Shema Israël au nom du Fils. Je ne sais pas si vous voyez ça. C'est-à-dire, répéter deux fois nous te reconnaissons comme Dieu, nous te reconnaissons comme Dieu. Il y a deux intentions du dualisme. Et oui, je trouve ça va. D'ailleurs, là, les critères de schisme dans la communauté juive, ça passe toujours par la prière. Il faut écouter attentivement comment ça prie dans cette synagogue. Est-ce que ça prie pour l'État d'Israël ou pas? J'ai rien dit, mais c'est ça le problème. Le schisme risque de passer par là un jour. Je reviens au sujet. Le Ober Artem Gamoti, ça veut dire qu'il y a une influence, je cherche un mot en français, Ashpara, Shefa, une influence, Achiza, du pharaon qui va accompagner Israël qui sort d'Égypte. Il faut qu'après la sortie d'Égypte, on se débarrasse de cette emprise du pharaon sur Israël. Ce Ober Artem Gamoti nous accompagne jusqu'à la fin des temps. Il faut achever cette libération de l'Égypte. Est-ce que c'est clair, ça? Je vais vous donner une indication sur la deuxième Mishnah de la Haggadat Pessah. Vous allez m'aider, parce que ma mémoire commence à devenir comme une éponge pleine de trous. Vous allez m'aider à reconstituer le texte. « Avadim haïnou le pharaon ben Israël, vayotienu hachem le kelo misham, peatrazaka ou bizan utria, veïnou » C'est ce haïnou, meshobanim haïnou, les pharaons de Mitzrayim. Avadim haïnou, les pharaons de Mitzrayim. Nous avons été esclaves aux pharaons en Égypte. Et si Dieu ne nous avait pas, lui, délivré de l'Égypte, nous serions encore, nous et nos enfants, nos petits-enfants, asservis aux pharaons en Égypte. Quelque chose de difficile. Alors, ça se réfère à ce que je viens de dire. Nous étions asservis au pharaon en Égypte, et Dieu nous a délivrés de l'Égypte, mais pas complètement du pharaon. Et s'il ne nous avait pas délivrés, nous serions encore asservis au pharaon en Égypte. Maintenant, nous sommes asservis au pharaon, pas en Égypte. Ça y est, c'est clair. Ça va un peu dans ce sens-là. Et il y a, dans la Kabbalah, alors on passe à un tout autre niveau, je schématise, bien sûr, ne croyez pas qu'on va faire de la Kabbalah. On fait du midrash. J'ai un de mes maîtres, il m'a dit, ne leur dis jamais que c'est de la Kabbalah. Le Satan ne veut pas ça. Alors dis-leur que c'est du midrash. Non, mais c'est du midrash. Le parallèle qu'il y a entre les destinées du corps qui vient de la poussière et qui retourne à la poussière, et le corps et le siège des passions, enfin le siège, l'origine, la matrice, des passions, des tendances, de l'envie, du mal, du etc. Alors que l'âme, elle est déjà libérée de cela en elle-même. Et donc nous qui sommes le résultat de l'union de l'âme et du corps, eh bien il faut nous délivrer de ce que représente l'aliénation au corps. Or, le mot de paro, c'est les mêmes lettres que heafar, la poussière. Et alors, Israël a été enfanté par l'Égypte, du pharaon, un peu comme l'homme est créé à partir de la poussière et doit être libéré de cette aliénation à la poussière. Et alors, il y a une aliénation qui continue. Même si on est déjà complètement libéré, on n'est pas complètement libéré. Donc on est encore dans ce monde-ci, on est attaché à la poussière, et par conséquent, bien que libéré d'Égypte, on est encore handicapé par Heafar de Pharaon. Vous voyez à peu près l'analogie que fait la Kabbalah. Alors on voit la source ici. Et j'ai dit la Kabbalah. Je ne peux pas m'empêcher de dire la vérité. Je vous l'ai dit en termes de Midrash. Tout le monde sait sérieux, je ne viendrai pas la source d'ailleurs. Mais c'est tellement clair, c'est tellement évident. Je crois que l'Égypte du Pharaon a été la civilisation la plus afarique, si j'ose dire, la plus poussiéreuse de l'histoire. Elle est le modèle de ce dont il faut être sauvé pour être sauvé, de l'aliénation à la matière. C'est là que je vais raconter cette anecdote qui me revient en mémoire. Il y a eu de grandes civilisations qui seraient la traversée. Eh bien, elles sont enfouies dans la poussière. Mais maintenant, c'est la civilisation égyptienne qui est le modèle de ce dont il faut être libéré. Elle, la Torah, a choisi d'être révélée à Israël à la sortie d'Égypte, pas à la sortie de Babel, pas à pas à la sortie d'Athènes, pas à la sortie de Rome, mais à la sortie du pharaon d'Égypte. Il y a une dignité de cette civilisation qui a mérité qu'on parle d'elle tellement dans la Torah. Je reviens à l'approximation, proximité à l'envers. Elle n'est qu'approximative, mais elle est proche. Bon, j'ai dit une chose qu'il faudrait expliquer pendant 6 mois. On a sauvé ce qu'il y avait de Kedusha enfoui en Égypte, en sortant d'Égypte. Et alors, ce n'est pas les Égyptiens qui ont le Shurana aux Égyptiens entre les mains, c'est nous. Voilà, ça va jusque-là. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Okay. De la même manière qu'on a sauvé ce qu'il y avait de sainteté à Babel, lorsque la famille d'Abraham est sortie de Babel. On a sauvé ce qu'il y avait de sainteté en Grèce, avec les Maccabées. Et on est en train de sauver ce qu'il y a de sainteté dans l'Occident, avec l'État d'Israël contemporain. Alors vous allez me dire tout de suite, quoi, l'Occident va disparaître, et alors? C'est pas mon problème. mais ceci dit, il faut effectivement sauver ces valeurs occidentales et les mettre à l'abri. Si vous avez des cousins qui s'occupent encore de ramasser les saintetés françaises, envoyez-leur un télégramme. Ça hurle. Parce que les juifs français qui font la raïa se préoccupent surtout de la baguette et du goût du camembert cacher, alors qu'il y a autre chose de plus important. Bon, je reviens au sujet. Et dans les premières émissions de La Source de Vie de José Eisenberg, il m'avait demandé de faire l'émission de Pessah. Et vous, là, il y a 40 ans, depuis, j'ai disparu de l'écran. Mais c'est marrant, il m'arrive très souvent, quand je suis en France, qu'un juif me rencontre, « Ah, on vous a vu à la télévision. » Pour revenir au sujet. Alors, il voulait que ça se passe dans les salles de Louvre. Et moi, j'étais très embêté. Parce que les salles du Louvre, moi, j'ai jamais mis les pieds. C'est plein de statues. Et c'est interdit d'aller là où il y a des statues. Et alors, j'ai demandé à mon rabbin, il m'a dit, c'est une mitzvah, vas-y quand même, mais ferme les yeux. Je me rappelle de cette expérience. Pour arriver dans les salles égyptiennes, il fallait passer par les salles grecques. Et déjà, les salles grecques, c'est beau. L'esthétique grecque, les canons de la beauté, enfin, vous connaissez toute l'histoire. Mais quand je suis rentré dans les salles égyptiennes, j'ai eu un choc. Parce que la beauté grecque, elle est morte, à côté de la beauté des statues égyptiennes. Les statues égyptiennes, c'est la vie prise dans la pierre. Alors que les statues grecques, c'est la mort prise dans la pierre. Les statues grecques, elles ont les yeux vides, les yeux morts, alors que les statues égyptiennes, tout à fait autre chose. Alors je me suis rendu compte de plusieurs choses à la fois. Vraiment un choc. La force des Hébreux en Égypte d'avoir résisté à une civilisation pareille. On a un peu de dérision vis-à-vis des primitifs d'Abou Simbel, je ne sais pas comment ça s'appelle. En réalité, non, c'est une situation colossale. Et où il y avait derrière une vie spirituelle païenne mais spirituelle, je ne sais pas comment dire ça. C'est la sagesse d'une civilisation de la matière. Mais alors quelque chose de fort, quelque chose de théomie, abyssale, je ne sais pas comment dire ça. Voilà, c'est le choc que j'ai eu. Et alors, corollairement, je me suis dit, ben, nos ancêtres en Égypte, il fallait le faire, de résister à ça. Vous voyez à peu près le problème. Et alors, c'est cette emprise-là de l'Égypte sur Israël sorti d'Égypte, qu'on n'a pas fini d'évacuer. Alors, ce que la Kabbalah explique, la Chassidut en parle de manière très profonde, c'est qu'en échelle individuelle, nous vivons cela. Nous sommes sortis d'Égypte en accédant à la vie de la Neshama. Mais cette Égypte, elle nous tire par les pieds du corps. Le Afar, c'est le corps. Et ce n'est qu'au moment vraiment de la délivrance, au moment de la délivrance de ce monde-ci, qu'on est délivré de cette Égypte. Ce que je veux dire, c'est que la vie corporelle, la vie biologique, c'est ça, la religion égyptienne. C'était ça, la sagesse égyptienne. C'était ça, la civilisation égyptienne. Et au moment, je ne sais pas s'il y a des Haverim parmi vous. Vous savez qu'est-ce que c'est les Haverim? C'est qu'on va dire la Hevra Kadisha.
Il n'y a pas de candidat?
Alors, vous ne connaissez pas le rituel. Mais je vais vous dire, à un certain moment du rituel de ce qui se passe là, Alors on lit le verset où Moshe Ala Ela Elohim, Vaikra Ela Vachem et Rochahar. Et Moïse est monté vers Dieu et Hachem l'a appelé du haut de la montagne. C'est-à-dire c'est au moment de la fin de la vie qu'on a le Sinaï. Bon, je ne sais pas si c'est clair. Oui, c'est clair. Mais en tout cas, il y a Brune Midrashim qui explique ça. Au Sinaï, la Neshama était pour la Had. L'âme avait quitté le corps des Hébreux pour pouvoir recevoir la Torah. Ce qui se passe au Sinaï, c'est cette... Bon, pour ceci, pour vous consoler, faites attention. Hein. La mort, ce n'est pas terrible, au contraire. Je vais vous donner un indice. Personne n'est revenu. C'est qui se trouve là. Il se trouve beaucoup mieux là-bas. En tout cas, ceux qui sont vraiment revenus, ils ne vous le diront jamais. Mais pour la tradition de la Torah, ce n'est pas la mort qui fait peur, c'est le jugement. La mort, au contraire, c'est une délivrance. Vous allez me dire, d'où tu sais ? Alors, je vais vous dire, d'où vous savez pas. Mais, en tout cas, pour revenir au sujet, je crois que c'est ce qu'il y a là dans Uberartem Gam Oti. Bon, comme je n'ai jamais trouvé de source à ça, je fais un appel au public. Si vous trouvez une source, non, c'est très sérieux. Vous la noterez quelque part. Bien, voilà donc les deux premiers versets que je voulais étudier pour eux-mêmes. C'est deux sujets importants. Et s'il nous reste du temps, on va étudier la parasha d'Achodesh. Quelle avait l'air ? Oh, il ne reste pas de temps. Je m'y attendais, mais c'est pas grave. Alors, on a deux possibilités. Il reste 10 minutes. Soit vous avez des questions, on les étudie. Soit je vous dis l'essentiel de ce que je voulais vous dire. Oui, hein ? Oui. Qu'est-ce que vous préférez ?
L'essentiel.
Vous êtes des gens sensibles. Alors écoutez, vous allez prendre le début du chapitre 12. Alors, le début du chapitre 12, premier verset. Voilà. Vayomer Hashem el Moshe ve'la'aron beret Mitzrayim l'emour. Là va commencer la révélation de la Torah comme livre des mitzvot donné à Israël. Il y a eu quelques mitzvot précédemment depuis les patriarches Adam Arishon, Noach le patriarche, mais c'est à l'échelle individuelle, elles seront reprises. Je veux dire, elles reprendront force de loi, de chova, d'obligation, qu'à partir du Sinaï, quand Israël est constitué en peuple à la sortie d'Égypte. Et alors, il était nécessaire qu'il y ait une préface historique depuis le début de Bereshit Bara Elohim. C'est la question que pose Rashi. Ouvrez un peu plus, peut-être. Vous n'avez pas trop froid. C'est que moi, j'ai trop froid. Et pour répondre à ce que dit le premier verset, si la Torah avait commencé à ce premier verset, alors il faut qu'on se demande qui est Hachem, qui c'est Moshe, qui c'est Aaron, qu'est-ce qu'ils font dans le pays d'Égypte, et qui c'est ce peuple à qui il s'adresse. Donc tout ça, il était nécessaire a posteriori que la Torah, comme disent les Mitzvot, une préface historique, commence à Bereshit. C'est la question que pose Rashi. Il n'était nécessaire de commencer la Torah que par ce verset. Pourquoi ça commence au commencement ? Alors Rachid donne une réponse à lui, mais par rapport à cette question, c'est obligatoire qu'il y ait une préface historique, sinon c'est pas fondamental. Vous avez été clair ? Donc il y a deux volets dans la Torah, l'histoire d'Israël depuis la création du monde jusqu'à la sortie d'Égypte, et ensuite les mitzvot de la Torah. Et alors, l'étonnement, c'est que cette première mitzvah, il y a deux étonnements. Cette première question semble ne s'adresser qu'à Moïse et à Aaron. Et Dieu dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, en disant Achodesh Azelachem, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Et après seulement, parlez à toute l'assemblée. Je vais prendre verset 3, parler à toute l'assemblée d'Israël en disant, le dixième du mois, vous commencez à préparer le sacrifice de Pessah. Les mitzvot de Pessah sont introduites par une mitzvah qui semble apparemment ne s'adresser qu'à Moïse et à Aaron. Et alors, il y a deux questions qui se posent là. La première, que je vais essayer d'étudier très rapidement, question qui a été posée par... Non, ça c'est la deuxième, que je ne vais pas étudier rapidement. Elle a été posée par le Bermeim Chaim. Quel rapport entre la structure du calendrier qui, à partir de la sortie d'Égypte, commence par Nissan et plus par Tishrin, comme c'était au temps des patriarches. Le premier mois était jusque-là Tishrin. À partir de maintenant, le premier mois c'est Nissan et Tishrin devient le septième mois. Le temps des patriarches, le temps des Avot, comme on a appris la semaine dernière, c'est dans l'histoire universelle. Ça, c'est l'année universelle qui commence à Tishrin. L'année où les événements de l'humanité tout entière s'inscrivent, c'est l'année de Tishrin. Mais l'année propre à l'histoire d'Israël, c'est l'année qui commence à Nissan. Et alors, pourquoi c'est adressé qu'à Moïse et à Aaron? Non, on se dira. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est quel rapport avec le sacrifice de Pessah? Pourquoi lier cela? Parce que cette loi de la structure du calendrier pouvait être donnée au Sinaï avec les autres lois de la Torah. Les mitzvot concernant le sacrifice de Pessah de la sortie d'Égypte, on comprend qu'elles soient données en Égypte. Ça y est, c'est clair. Bon, c'est ça que je voulais étudier aujourd'hui, mais comme d'habitude, c'est pas nous qui décidons. Mais l'année prochaine, rappelez-moi qu'on étudie ça. Avec le... je vous ai prophétisé qu'il y aurait une année prochaine. Et alors, l'autre question, c'est pourquoi cette mitzvah ça s'adresse essentiellement à Moïse et à... Ça y est, c'est clair. Vous voyez comment ça se précise. Alors, on va voir ce que va dire Rashi à ce sujet. Prenez Rashi. Vayomer Hashem el Moshe vel Aaron. Bishvil she'aaron asa v'tarach. Parce que Aaron a agi et tarach a peiné b'moftim dans les miracles de la sortie d'Égypte, qu'est Moshe comme Moïse. Halak lo kavod. Il a partagé avec lui l'honneur, cet honneur, b'mitzvah rishona, dès la première mitzvah. Que la Torah a impliqué Aaron avec Moïse dans la révélation des commandements. Vous avez compris l'idée? Bon, derrière ce Rashi, il y a une littérature énorme. Je vais mettre en évidence la question essentielle. La Torah a été révélée simultanément à Moïse et à Aaron, et ça commence dès le début. Pourquoi on connaît Torah de Moshe et pas Torah d'Aaron? Pourquoi la tradition de la Torah, c'est de rapporter la Torah à Moïse et pas à Aaron. Alors là, vraiment, je regrette d'avoir si peu de temps, mais je vais vous dire l'essentiel. C'est que la Torah, selon Moïse, c'est la Torah du Tikkun HaOlam, alors que la Torah, selon Aaron, c'est la Torah de la Kapara. Voilà. Moïse donne la loi. Et à partir du moment où il donne la loi, et la loi, c'est la loi du Tikkun HaOlam. C'est-à-dire, je ne trouve jamais un français correspondant. La mise au point, la restauration, la, aidez-moi à traduire, tikkun, la réparation du monde. Le monde est encore en trace à l'état de chaos, il faut achever de le réparer. Le taken, tikkun, c'est asiya. La rasot, c'est le taken. Ceux qui connaissent les commentaires savent que c'est toujours le sens. Chaque fois que le texte dit faire, ça veut dire le taken. Ça veut dire faire jusqu'à l'achèvement de la mise au point. Et donc, Moïse donne la loi d'Israël, où Israël est chargé de mener le monde à son achèvement. Asher bara Elohim la'asot dafka. Israël est chargé d'achever la sortie du chaos du monde par les mitzvot. Bon, ça s'étudie pendant 6 mois. Mais vous voyez, qu'est-ce que c'est Torah de Moshe? Lorsque vous réfléchissez à cela, que les Midrashim mettent en évidence que chaque fois que Dieu révèle à Moïse les lois concernant la capara, l'expiation des fautes dans le temple, Moïse ne comprend pas. Moïse, nous dit le Midrash, après, apprenez le jour et oubliez la nuit. Alors Dieu lui dit, demande à Aaron qu'il t'explique. C'est-à-dire, la Torah de Moïse, ce n'est pas l'expiation des fautes. La Torah de Moïse, c'est le métier d'homme. Dans ce métier d'homme, il y a des fautes de métier. Alors on a besoin d'Aaron pour les réparer. Je ne sais pas si c'est clair. Okay. Alors, c'est la même Torah, mais dans la perspective de Moïse, c'est le Tikkun, dans la perspective d'Aaron, c'est l'accapara. Alors faites bien attention à ça. Quand vous voyez une communauté qui est occupée aux prières pour les morts et aux vidéos de la flotte, à 90%, c'est déjà plus le judaïsme. Okay? Nous sommes la religion de Torah Moshe. Quand ça bascule sur Torah Aaron, c'est déjà autre chose. La religion de la mort, la religion de la faute, la religion... Parce que c'est clair, c'est vite. Okay? Mais le problème, c'est que quand il y a des fautes, il faut les réparer. D'où l'importance d'Aaron. Mais ne passer son temps qu'à ça, ça dévoile qu'il y a quelque chose de très profond derrière. La culpabilité de vivre. Que la religion, ça sert à faire la capara du fait que j'ai cette faute qui consiste à être en vie. Et ça, c'est le christianisme en plein. Okay? De quoi le christianisme se repent? De s'être pendu une fois, alors il se re... il se repente d'exister. La faute, c'est d'être. C'est ça la religion de type capara. Est-ce que c'est clair? Bon. Alors vous voyez, ça risque d'envahir les communautés juives. Mais, je sais par exemple, chez les réformés en Amérique, le jour de Kippour, ils ne connaissent pas le Seigneur. Un jour, le jour de Kippour, il y a la queue jusqu'à l'église pour écouter la prière des morts, chez les réformés. Okay? Vous connaissez ça? Mais dans tout le reste du temps, ils ne connaissent rien. Bon, en tout cas, pour revenir au... Main. Non. Partout. Ils vont aussi à la synagogue à Pourim. Tandis que là, ils vont que... alors, je me suis exprimé trop rapidement. Okay? Quand il n'y a que ça, c'est grave. Vous savez, moi, je suis de Ritz Paradis, d'origine espagnole. Ça, c'est la religion de type espagnol et portugais. Surtout portugais. Cette religion noire, cette religion... ça a une beauté pour elle-même, mais en fait, cette religion de la mort, cette religion... Voilà, c'est, y a, ça, il faut être espagnol ou portugais pour comprendre ça. Okay? Mais chez les juifs, des fois, il y a ce risque que la religion noire. Il faut faire attention. Ça, c'est la religion qui consiste à expier. Expier quoi, en fin de compte? Alors, c'est le christianisme qui est clair. Expier le fait d'exister. On existe dans la chute. Alors, je... La religion est un parachute. Voilà le problème. On a besoin d'Aaron. Mais Torah, c'est Torah de Moshe. Et alors, ici, bon, ça, si on avait le temps, on aurait approfondi. Ça veut dire tant pour l'histoire nationale d'Israël, qui va inaugurer un temps, la Torah va achever la libération du monde. Que pour la religion d'Israël, Aaron c'est le grand prêtre, on expie les fautes des métiers d'homme. Mais la faute ici prend un tout autre sens. C'est un raté du métier. Quel métier? Du métier de l'homme que Dieu a créé pour lui donner le monde, pour achever sa création. Rien à voir avec les religions païennes. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et alors rassurez-vous, het, ça n'a pas du tout. Et c'est het de Adam Rishon, le mot het. On le dit pour Adam Rishon. Ça n'a pas du tout ce pathétique du péché originel dont il faut être sauvé et toute cette religion de sacristie qui est... Bon, bref. Et alors, que d'ailleurs les Israéliens ont retrouvé à la mort de Rabin. Et les Français à la mort de Mitterrand. Ça m'a frappé, c'était la même chose. Pareil. Ah, je ne savais pas que les Français étaient religieux. Mais moi, je suis paganisme. Bon, enfin, bref, c'est une autre histoire. Et alors, en tout cas, les fabricants de Neros Neshama ont fait leur affaire. Mais en tout cas, pour revenir au sujet, qu'est-ce que je parlais juste avant? Ça m'a dérivé. Oui. En hébreu, chet, ça veut dire rater la cible. La hati est un matara. Un arc qui tire une flèche, la flèche est tombée à côté. C'est ça un chet. C'est un raté, un pancher. Okay? Dès le début, de l'histoire humaine, il y a des ratés. Parce qu'on court, alors on court comme des ratés. alors qu'il faut marcher, halakha, halikha, si on se met à courir, alors il y a rien. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Regardez l'humour du récit de la vie. Dès que la vie commence, il y a une faute. Vous avez remarqué ça? Alors c'est tellement énorme que vraiment les chrétiens manquent d'humour en prenant ça au sérieux. Que vivre, c'est être en faute. Je ne sais pas si vous voulez. Cet incident de la faute du premier homme est très grave. Enfin, ça veut dire repousser la souveraineté de Dieu. Qu'est-ce qui est une faute? C'est pas comme toi tu veux que je me conduise, c'est comme moi je veux. C'est ça la faute. Hein? Mais c'est la vie, le fonctionnement de la vie, qui fait qu'il y a ces ratés-là. Il y a un midrash extraordinaire, un midrash dans la Kabbalah, qui dit que chaque fois que quelqu'un meurt, alors Adam Rishon vient s'asseoir au chevet de l'agonisant, il dit, mon fils ou ma fille, tu sais, c'est pour ta faute que tu vas mourir, pas pour la mienne. Que ce soit clair. On sait que Adam Rishon s'est repenti. Et puis, après Adam Rishon, il y a Abraham, Moïse, il y a Jacob, il y a le roi David, qui a rédimé, comme on dit en français, a effacé. Nous, on attend le Machiav Ben David, mais c'est-à-dire celui qui doit faire la capara du meurtre de Abel Pakaïm, Shlomo. Ben David s'appelle l'homme de la paix. Hein? Et alors qu'eux, ils attendent encore le Machiav, la première faute, de la faute d'Adam Rishon. Mais David a déjà arrangé ça. À l'échelle du clan d'Israël. Vous comprenez ce que je veux dire? On attend le Ben David. Ils attendent encore, là, Dieu sait quoi. Bon, bref. C'est ça le problème. Le mot de Haïm commence par quelle lettre? Hev. Vous avez vu? Dès que la vie commence, alors c'est le Hev que j'ai pas voulu. C'est le Hev que la vie entraîne. Est-ce que c'est clair? Un jour, posez-moi la question en étudiant vous-même. Le hate que j'ai voulu, ça s'appelle autrement. Comment ça s'appelle le hate que j'ai voulu? Pécha. Et ou bien hapat. C'est d'autres catégories. Mais hate de la Marichot, c'est un incident. Un incident grave. Dans le mythe chrétien, ça devient la culpabilité d'exister. Méfiez-vous de ça. Et chez les protestants, beaucoup plus profond que chez les catholiques. Je ne vais pas ouvrir des parenthèses, ça prend du temps. Mais les protestants ont ça en moque. Un jour, je vous raconterai ça en détail, quand je m'occupais des éclaireurs à Paris, des éclaireurs juifs bien sûr, on avait des réunions avec les aumôniers des autres mouvements. Et un jour, l'aumônier protestant m'a dit, nous on est très embêtés, parce que le scoutisme, c'est le service dans la joie. Mais comment nous, les protestants, on peut être dans la joie? Du matin au soir, on dit, qu'est-ce que j'ai péché? Qu'est-ce que j'ai péché? Comment on peut être dans la joie? Vous ne connaissez pas cette blague? Vous voulez séduire une jeune fille protestante, dites-lui qu'elle a fait une faute. Elle se met tout de suite à genoux. Mais ne croyez pas que c'est une blague. Parlez-lui du mal. Parlez-lui de Satan. Vous voyez, bon, il y en a une religiosité qui n'a rien à voir avec la Torah. Et quand ça envahit la conscience juive, c'est grave. Bon, on s'arrête là parce que je ne veux pas que vous ayez des ennuis avec la belle-mère, mais on se reverra la semaine prochaine.